Ben maintenant, on s'intéresse à la déprescription des antipsychotiques dans les résidences pour aînés. Et pour en parler, Yves Couturier, qui lui est professeur titulaire au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke. Il est également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les pratiques professionnelles d'intégration des services en gérontologie. Salutations, M. Couturier.
Bonjour à vous.
Je m'intéressais à cette idée parce que c'est quelque chose que vous cherchiez, je pense, à prouver. Il y a comme un projet pilote en Estrie qui a voulu voir si une baisse des prescriptions pouvait peut-être, disons, ne pas causer de heurts chez les gens pour qui on recevait ces prescriptions.
Oui. Mais en effet, l'idée de déprescrire ou de faire un usage adéquat des médicaments est une idée qui est largement reconnue, tant sur le plan scientifique que sur le plan clinique. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il était, c'est une bonne idée, difficile à implanter, et donc le projet pilote dont on parle aujourd'hui, qui se déroule d'ailleurs dans plusieurs régions du Québec, a montré que cela était possible pour des clientèles particulières, c'est-à-dire des gens qui ont des troubles neurocognitifs majeurs et qui présentent des symptômes comportementaux ou psychologiques qui découlent de leur maladie. Donc, on a montré qu'il était possible d'enlever des médicaments réputés peu efficaces pour eux, et ce, de manière sécuritaire.
Mais pourquoi dites-vous que la déprescription était difficile à appliquer?
Ah, c'est parce qu'il y a toujours un écart entre une bonne idée et sa mise en œuvre. Sur le terrain, il y a des pratiques habituelles, usuelles, qui ne sont pas assez bien réfléchies. Il y a des manières de faire issues du passé. Les gens arrivent en CHSLD avec des listes de médicaments. Donc, il y a toutes sortes de mauvaises raisons qui font en sorte que la liste des médicaments n'est pas toujours révisée. Par ailleurs, il y a une certaine méconnaissance des maladies comme les maladies de type Alzheimer et de certains symptômes qui peuvent engendrer, qui font en sorte que les gens pensent que c'est une bonne idée que de donner, par exemple, des antipsychotiques, alors que ce n'est pas des médicaments qui fonctionnent efficacement pour ces problèmes-là. Donc, même parfois, il faut le dire, des familles qui revendiquent des médicaments qui ne devraient pas être prescrits par les professionnels.
Par sécurité, parce que c'est plus peut-être simple à gérer ou parce que leur médecin en qui ont confiance depuis des années, lui leur dit ça?
Ben, vous savez, tout le monde dans la population et plusieurs professionnels ont une représentation erronée face à un problème X ou Y, qu'il doit y avoir des médicaments. Or, on sait que ce n'est pas toujours efficace, même que cela peut produire des contre-effets. Par exemple, de la somnolence qui peut provoquer éventuellement des chutes. Donc, c'est de la mauvaise information, des mauvaises pratiques qu'il faut réussir à recadrer. Encore une fois, les gens sont en principe plutôt favorables, mais après, dans la pratique, il faut les accompagner.
Ouais. Maintenant, lorsqu'on veut réduire la prescription, on le sait, il y a toujours quand même une période d'acclimatation avant que le médicament et le nouveau dosage, disons, arrête ou fasse son effet. Donc, comment vous établissiez les échéanciers ou...
Ben, vous savez, d'abord, ça se déroule dans un milieu sécurisé, c'est-à-dire les CHSLD, qui sont des lieux où les professionnels occupent une place importante. Tout cela se fait encore via des rencontres d'équipe qu'on appelle des caucus, c'est-à-dire des petites rencontres courtes dans lesquelles le médecin, le pharmacien, l'infirmière, mais aussi des acteurs qui sont au quotidien avec les usagers, comme des préposés aux bénéficiaires, peuvent voir si le retrait du médicament n'a pas d'effet contre-indiqué. Et donc, ça se fait progressivement, de manière clinique, c'est-à-dire au cas par cas. D'ailleurs, nos résultats montrent que, dans certains cas, les médicaments ont été enlevés complètement. Les médicaments en question ont été enlevés complètement, alors que dans d'autres, la dose a été simplement réduite.
D'un côté, M. Couturier, on se dit qu'on voudrait que le patient soit au courant et donne son aval. De l'autre, le fait qu'ils ne le sachent pas ne peut pas avoir un effet placebo. Est-ce que les patients sont au courant qu'ils font partie du projet ou pas?
Alors, les clientèles dont on parle, c'est des gens qui ont un trouble neurocognitif majeur et qui, de facto, ont une capacité à consentir qui est limitée.
OK.
Sur le plan légal et sur le plan clinique, hein, sur les deux plans. Et donc, les familles ont été mobilisées pour obtenir le consentement en question.
Qu'est-ce que vous avez remarqué avec... Et est-ce qu'il y a des clientèles pour qui c'était plus positif que d'autres?
Alors, c'est une étude qui est très maîtrisée. Donc, les clientèles ont des profils en gros similaires. On est en train tous les deux de parler à vos auditeurs et vos auditrices d'une première phase d'étude qui concerne à peu près 220 personnes. Et donc, peut-être vous rappeler que dans 86% des cas, donc ça fait plus de 150 personnes, eh bien, la déprescription s'est déroulée positivement et sans conséquence.
Wow.
Il y a quelques cas où il y a eu des enjeux de sécurité. Évidemment, là, l'équipe soignante s'est occupée de ces personnes-là. Là. Et donc, globalement, quand on atteint des chiffres de ce niveau-là, 86% des cas, eh bien, ça fonctionne assez bien.
Mm-hmm.
La clé, pour bien répondre à votre question, c'est qu'il ne suffit pas que de retirer les médicaments. Il doit aussi avoir une action compensatrice. Et donc, pour les clientèles dont on parle, c'est des gens qui avaient des comportements dérangeants, inadéquats, dangereux. Eh bien, lorsqu'on, pour ces personnes-là, on déploie des stratégies alternatives, c'est-à-dire qui requièrent de l'éducation, qui requièrent de l'accompagnement, qui requièrent un peu de tolérance. On prend,
prenons
l'exemple de quelqu'un qui se promène sur l'étage et qui ramasse des petits débris par terre, des mousses, etc.
Mmh, mmh.
Tant et aussi longtemps qu'il ne les met pas dans sa bouche, c'est pas un problème important.
C'est vrai.
Et donc, il faut agir sur le patient. Il faut agir aussi sur les soignants pour que qu'ils changent leur comportement puis qu'ils acceptent, dans le fond, qu'il y ait des petits comportements.
Ouais, changer les perceptions, là.
C'est ça, ouais.
Et j'ai vu aussi que, bon, il pouvait y avoir de l'intégration de différents modes de modes thérapeutiques, là, que ce soit zoothérapie, musicothérapie. Donc, on pourrait retirer ceci pour ajouter cela, là.
Tout à fait. Alors, oui, quand même, je tiens à insister sur le fait que la zoothérapie, tout ça, c'est des appareils, c'est des stratégies amples, hein, qui requièrent beaucoup de ressources. Mais simplement, le changement d'attitude des professionnels à l'égard de petits comportements dérangeants, quelqu'un qui, par exemple, cogne à la porte de manière répétitive, on peut agir là-dessus pour canaliser le comportement dans une autre direction. Donc oui, il y a des approches pharmaco plus ambitieuses, comme zoothérapie et musicothérapie, et il y a des approches moins exigeantes en ressources qu'on peut mobiliser. Et vous comprenez bien que dans le contexte des CHSLD, même faire ça, c'est pas toujours facile.
Ouais, ouais.
Donc, il y a une transformation des pratiques professionnelles à faire qui va se faire sur le long cours.
En tout cas, moi, je retiens le 86% là, de taux de réussite. Vraiment, c'est
ouais,
probable.
C'est extrêmement encourageant.
Ouais, voilà pourquoi on va étendre ce projet-là à d'autres. On parle de au moins 220 établissements. Merci beaucoup, Yves Couturier. C'est très apprécié.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.
Il est professeur titulaire au département de services sociaux de l'Université de Sherbrooke, entre autres choses.